J'aimerais lire avec vous quelques versets qui sont tirés de la première lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Corinthe. Le texte va s'afficher. C'est 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 8. Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. J'aimerais ce matin, pour parler de la résurrection de Jésus, le faire en parlant de ses témoins, en parlant d'hommes et de femmes qui ont vu le Christ ressuscité, en parlant d'hommes et de femmes qui ont pu témoigner de la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul, dans ce texte que je viens de lire, dans cette première lettre aux Corinthiens, énonce dans les grandes lignes ceux qui ont vu le Christ ressuscité, ceux à qui il est apparu. Et en plus du cercle restreint des disciples, l'apôtre Paul affirme qu'il est apparu à plus de 500 frères qui ont été donc les témoins du Christ ressuscité. Ce matin, j'aimerais vous proposer de nous focaliser sur les tout premiers témoins, les tout premiers, les premiers des premiers de la résurrection de Jésus. Celles et ceux qui se sont rendus au tombeau le matin de Pâques. Mais avant d'en venir là, quelques mots pour définir ce qu'est un témoin. Un témoin, qu'est-ce que c'est ? Je fais comme tout le monde, quand je cherche une définition, j'ouvre le dictionnaire, le petit Robert ici, qui dit « personne qui témoigne, qui fait un témoignage ». Et puis plusieurs sens plus précis sont énoncés, j'ai mis les deux premiers, « personne qui certifie » ou peut certifier quelque chose qui peut en témoigner. Personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice. Le témoin témoigne. Il raconte. Il dit ce qu'il a vu, et ce qu'il a entendu. Et il est en mesure de le certifier puisqu'il en est le témoin. Et ainsi l'apôtre Pierre, qui fait partie de ceux qui se sont rendus au tombeau le matin de Pâques, va dire lors de sa prédication le jour de la Pentecôte, dans acte 2, verset 32, ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins, en parlant de ceux qui étaient avec lui, les disciples qui étaient avec lui. J'aimerais donc ce matin parler des tout premiers témoins de la résurrection de Jésus, et j'aimerais le faire avec le récit qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et je vais lire maintenant ces versets, c'est au chapitre 20, je commence au verset 1. Jean, chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères. » Et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Au matin de Pâques, le matin de la résurrection de Jésus, tout s'est passé dans la discrétion. Dans la discrétion du lever du jour, pas de feu d'artifice, pas de clairon, pas de cymbales, juste quelques femmes, quelques hommes perdus dans leur chagrin et dont les yeux vont s'ouvrir sur la résurrection de leur maître, ce sont les premiers témoins. Et les premiers des premiers sont des femmes. La résurrection de Jésus a eu lieu le premier jour de la semaine, le matin de Pâques. Notons que les quatre évangiles utilisent cette même formule, le premier jour de la semaine. Notons aussi que personne dans les évangiles ne dit ou ne précise que cela s'est passé le troisième jour. Après la crucifixion, ça aurait été pourtant assez logique de dire les choses ainsi. Alors pourquoi parler du premier jour de la semaine ? Peut-être pour mettre l'accent sur le commencement de quelque chose de nouveau, le premier jour de la semaine. C'est Marie-Madeleine qui, la première et seule, se rend au tombeau. Du moins, c'est ce que le texte de Jean nous laisse à penser. Dans les trois autres évangiles, Marie-Madeleine fait partie d'un groupe de femmes. Alors plusieurs questions se posent à nous. Marie est-elle d'abord venue toute seule ? Comme le laisse à penser ce texte de Jean ? Était-elle accompagnée d'autres femmes dont Jean ne parle pas ? Jean a-t-il choisi de ne parler que de Marie, même si les autres sont présentes, parce qu'elle va avoir un rôle important dans la scène suivante que nous avons lue ? D'autres femmes sont-elles venues avec elle, mais après que Marie soit allée dire à Pierre et Jean que le tombeau était ouvert, que le corps avait disparu ? D'autres femmes sont-elles venues indépendamment de Marie, et elles seraient arrivées au moment où Marie est repartie pour chercher Pierre et Jean ? Ce sont là quelques-unes des questions que nous pouvons, que nous devons nous poser pour essayer d'harmoniser les récits des différents évangiles. En envisageant les possibles, nous arrivons rapidement à la conclusion que plusieurs scénarios sont possibles et plausibles. Notons juste ici que si Jean ne mentionne que Marie, celle-ci, quand elle va aller appeler Pierre et Jean, va utiliser la première personne du pluriel pour dire à la fin du verset 2 « Et nous ne savons pas où on l'a mis. » Ce pluriel « nous ne savons pas » alors qu'elle est apparemment seule, fait penser à certains que Marie est bel et bien avec d'autres femmes, dont Jean ne parle pas. Pourquoi Marie, pourquoi les femmes sont-elles venues au tombeau au matin de Pâques ? En plus de bonheur. C'est sans doute le texte de Marc, le récit de Marc, qui nous donne la clé, puisqu'il précise que les femmes sont venues afin d'embaumer le corps de Jésus. Il faut être un peu plus précis, et il faut dire qu'elles sont venues pour finir d'embaumer le corps de Jésus. Puisque, souvenez-vous, Nicodème était venu au moment de la descente du corps de la croix, avec des aromates, un mélange, dit le texte, de myrrhe et d'aloès, qui avait déjà été mis sur le corps de Jésus. Mais à cause du sabbat, qui était sur le point de commencer, il avait fallu parer au plus pressé, et il avait fallu interrompre l'embaumement. Il avait même fallu mettre Jésus dans un tombeau qui se trouvait tout proche du lieu de la crucifixion, pas le temps d'aller plus loin. Et ce dernier détail nous est rapporté dans les versets qui précèdent le texte que nous avons lu. C'est Jean 19, et je lis à partir du verset 39. Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où encore personne n'avait été mis. C'est donc là qu'ils mirent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, c'est-à-dire à cause de la préparation de la Pâque qui allait débuter, parce que le tombeau était proche. On comprend bien qu'ils sont dans l'urgence. La Pâque va commencer, il faut absolument qu'ils aient terminé avant cela. Les femmes sont donc venues achever l'embaumement qui avait dû être interrompu à cause du sabbat. Mais il y allait y avoir un os, ou plus précisément une pierre. Une pierre qu'il faudrait rouler pour accéder au corps, une pierre bien trop lourde pour ces femmes. Et si nous n'allons pas le faire, mais si nous regardions le texte de Marc, nous verrions que ces femmes, en marchant vers le tombeau, se demandaient qui allait rouler la pierre pour elles. Mais quand Marie-Madeleine arrive au tombeau, seule ou accompagnée, la pierre a déjà été roulée. La pierre a été déplacée. L'entrée du tombeau est accessible. Et voyant cela, Marie retourne en arrière et va courir pour prévenir Pierre et Jean. Les prévenir de quoi ? Verset 2, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Marie pense que le corps a été volé. Elle pense qu'il s'agit d'un acte de vandalisme. Notons que le vol de corps, ça nous paraît un peu surréaliste, mais c'était apparemment quelque chose d'assez courant à l'époque, et suffisamment courant pour que l'empereur Claude, qui va régner dans les années 40 à 54, dise quelques années après, hein, la crucifixion de Jésus, on est autour des années 30, dise et fasse une loi pour punir de mort celles et ceux qui voleraient des corps dans les tombeaux. Donc on voit que c'était quelque chose qui existait dans l'Empire romain. À l'évidence, Marie n'a pas pensé un seul instant, ça ne lui a pas traversé l'esprit, elle n'a pas pensé un seul instant à la possibilité de la résurrection. Cette possibilité, cette éventualité ne fait pas encore partie des possibles dans son esprit, ni pour elle, ni pour les autres disciples d'ailleurs, et ce, malgré le témoignage des Écritures. Nous en reparlerons dans quelques instants. Que Jésus ressuscite le dernier jour à la résurrection des morts, bien évidemment, mais que Jésus ressuscite le troisième jour de leur vivant, ça c'est quelque chose qui pour l'instant ne trouve pas de place dans leur compréhension. C'est impensable, c'est impossible. Marie est donc allée prévenir Pierre et l'autre disciple. Je ne vais pas chercher à démontrer, il s'agit de Jean, on pourrait voir quelques passages dans l'évangile de Jean qui le montrent. Marie va donc prévenir Pierre et Jean que quelque chose, pardon, s'est passé au tombeau. Pour Marie, le corps du Seigneur a été enlevé. Et sur les paroles de Marie, sur son témoignage, Pierre et Jean se mettent en route et décident de se rendre au tombeau. Ils s'y rendent en courant. Ce sont les témoins suivants. Jean est plus jeune, il est plus rapide, et il arrive le premier devant le tombeau. Il se penche, se baisse, voit les bandelettes, mais n'entre pas. Il n'ose sans doute pas le faire. Pierre, lui, arrive ensuite, et fidèle à l'image qu'on s'en fait, lui ne s'embarrasse pas des mêmes scrupules que Pierre et directement, il entre dans le tombeau. Là, il voit aussi les bandelettes avec lesquelles le corps a été enveloppé, ainsi que le linge qu'on mettait sur la tête et qui se trouvait à part. Devant l'audace de Pierre, Jean entre à son tour. Et là, nous avons certainement une des plus belles phrases de j'allais dire presque de la Bible, en tout cas des évangiles. C'est le verset 8, c'est le verset clé de notre passage. Il vit et il crut. Il vit et il crut. Qu'a-t-il vu ? Qu'a-t-il cru ? Ce que le texte précise, c'est que jusque-là, les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter. Quand ils rentrent dans le tombeau, ils ne sont pas là en train de se dire « Est-ce que Jésus est peut-être ressuscité ?» Ça ne fait pas partie de leur logiciel, ça ne fait pas partie de ce qu'ils peuvent imaginer. Mais là, dans le tombeau vide, Jean voit et croit. Ce sont peut-être les bandelettes et le linge qui amènent Jean à croire. En effet, si le corps ou si le tombeau avait été complètement vide, complètement, sans rien, la possibilité d'un vol n'aurait pas été facile à écarter. Mais là, il y a les bandelettes, il y a le linge. Il est tout à fait improbable que les voleurs aient pris le temps d'enlever toutes les bandelettes qui étaient autour du corps pour ne voler qu'un corps nu. C'est d'autant plus improbable que les bandelettes, le linge et les aromates, 100 livres de mélange de myrrhe et d'aloès, avaient une valeur marchande certaine. Et on voit mal des voleurs s'en priver. La seule explication plausible, même si elle est incroyable, est que le corps de Jésus est passé au travers des bandelettes et du linge. Au travers des bandelettes et du linge, d'une manière aussi extraordinaire et miraculeuse que Jésus va passer au travers des murs de la pièce fermée, dont la porte était fermée, dit le texte, et où se trouvaient les disciples. D'ailleurs, c'est un peu plus loin dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean, au verset 26. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Et là, il est debout au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. À l'évidence, le corps du ressuscité, le corps ressuscité de Jésus ne connaît pas les limites de son corps avant sa crucifixion. Il vit et il crut. Pour Jean, la présence des linges, les bandelettes et le linge du visage, et beaucoup pensent que ces linges avaient encore la forme du corps, est sans doute une indication forte de la résurrection. C'est en tout cas une supposition sensée que l'on peut faire devant notre texte qui affirme que Jean vit et crut. Plus tard, dans la pièce fermée où Jésus va rejoindre les disciples, il va dire à Thomas, vous savez Thomas qui ne voulait pas croire avant d'avoir vu et puis toucher, mettre les doigts dans les plaies de Jésus, il va dire à Thomas, qui ne pouvait pas donc croire sans voir, mais sans voir le corps de Jésus, il va dire au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est le cas de Jean dans le tombeau. Il vit, pas le corps de Jésus, il vit le tombeau vide, les bandelettes, et il crut. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est le cas de Jean, et c'est notre cas aussi. C'est notre cas aujourd'hui, et c'est le cas pour tous les croyants depuis que Jésus est retourné vers son Père. Nous croyons sans voir le corps de Jésus. Nous croyons le témoignage des Écritures. Nous croyons la parole de Dieu, nous croyons le témoignage de ces premiers chrétiens. Nous croyons parce que le Saint-Esprit illumine notre cœur, parce qu'il ouvre nos yeux et parce qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, oui, mais que ces choses sont vraies. Les disciples ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter. Et pourtant, Jésus le leur avait dit. Et là, on pourrait regarder dans les évangiles tous les textes où Jésus annonce non seulement sa mort, mais aussi sa résurrection. Pourtant, les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, annonçaient la résurrection du Christ. Sa mort, mais aussi sa résurrection. Et c'est ce que Jésus va montrer. Va montrer aux pèlerins d'Emmaüs. Vous vous souvenez peut-être de ce passage. J'aimerais juste lire quelques versets de C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et je lis à partir du verset 21. Il va d'abord le dire aux pèlerins d'Emmaüs et après il le dira aux disciples un peu plus tard. Nous espérions que ce serait lui, ce sont les pèlerins qui parlent, qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis ces événements que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont été stupéfiées. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, je ne sais pas si la traduction vous convient, que vous êtes stupides. Homme, alors l'ancienne traduction c'était homme, comment ? Voilà, c'est ça. Que vous êtes stupides, c'est la nouvelle Bible Second qui traduit comme ça. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans toutes les Écritures le concernait. Et on saute quelques versets, versets 44 à 46, là il est avec ses disciples, le cercle le plus restreint, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour. » Là aussi, on pourrait prendre du temps pour retourner dans tous ces textes de l'Ancien Testament, mais ça serait bien trop long. Les Écritures annonçaient la résurrection du Messie, du Christ. Et c'est ce que Pierre, une fois qu'il aura compris la résurrection, va dire lors de sa première prédication le jour de la Pentecôte. Acte 2, versets 22 à 32. Homme d'Israël. Et il va le dire en soulignant et en citant une partie du psaume 16. Les Écritures parlent de la résurrection. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'est pas possible qu'il soit retenu par elle. Ah ben j'étais allé trop loin. Vous aviez déjà la suite. Car David a dit de lui, donc c'est ça le psaume 16, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête et ma langue est transportée d'allégresse. Ma chair même reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. » Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ. Et il en a parlé, en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas vu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins. Pierre et Jean vont retourner chez eux, dit le texte. Sans doute n'ont-ils pas vu dans leur excitation Marie-Madeleine qui se trouve là, tout près, à côté du tombeau. Marie qui est notre prochain témoin. Marie qui apparaît dans les quatre récits des évangiles. Marie, souvenez-vous que Jésus avait délivré de sept démons ou esprits mauvais et qui faisait partie du cercle rapproché des disciples de Jésus. Marie qui était au début de notre récit et que nous retrouvons là, seule, en train de pleurer. Marie semble perdue. Elle pleure donc. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas pourquoi on a volé le corps du Seigneur. Tout en pleurant, elle s'approche du tombeau, se penche pour regarder à l'intérieur et voit deux anges, dit le texte, vêtus de blanc. Deux anges qui se trouvent là où reposait le corps de Jésus, un à la tête et l'autre aux pieds. Leur présence, la présence des anges, indique que la disparition du corps est le résultat d'une intervention divine. Les anges interrogent Marie, verset 13, « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Et la réponse de Marie montre tout son désarroi et toute son incompréhension de ce qui est en train de se passer. Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur. » Et je ne sais pas où on l'a mis. Marie est perdue, complètement perdue, et noyée dans son chagrin. Ni la disparition du corps, ni la présence des anges ne lui permettent pour l'instant de comprendre. Seule la rencontre avec le Christ ressuscité le pourra. Et après avoir parlé aux anges, Marie se retourne et là elle voit Jésus qui se trouve là debout. Mais elle ne le reconnaît pas. Est-ce que ses yeux remplis de larmes l'empêchent de voir, l'empêchent de bien voir ? C'est possible. En fait, il est très probable que l'apparence de Jésus a en partie changé. D'autres, par la suite, les pèlerins d'Emmaüs, par exemple, ne vont pas le reconnaître tout de suite non plus. En fait, Marie n'a aucune raison de s'attendre à trouver Jésus là, à côté d'elle. Elle le croit mort. Elle n'a pas encore compris la résurrection. Pour elle, l'homme qui lui parle ne peut être qu'un inconnu. Et le texte précise que Marie pensait que c'était le jardinier. Qui d'autre se serait trouvé là de si bonne heure, si ce n'est le jardinier ? Marie ne reconnaît pas Jésus. Mais Jésus s'adresse à elle. Et il le fait avec une interpellation qui peut nous surprendre. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Marie pense donc que c'est le jardinier. Elle est encore convaincue que quelqu'un a pris le corps. Serait-ce le jardinier qui est responsable ? Verset 15, pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Marie a de la suite dans les idées. Mais Marie est dans un brouillard intense. Un brouillard qui pourtant va se dissiper d'un coup, d'un seul, quand Jésus va prononcer son nom. « Marie, lui dit Jésus. » Et Marie comprend. Ses oreilles s'ouvrent. Elle reconnaît la voix du bon berger. Pensez à ce texte de Jean 10 qui dit que les brebis connaissent sa voix. Il les appelle par leur nom et elles connaissent sa voix. Ses oreilles s'ouvrent, ses yeux s'ouvrent Et voilà qu'elle reconnaît Jésus, son cœur s'ouvre et elle comprend la résurrection. Elle comprend que Jésus est vivant. « Rabouni », lui dit-elle en hébreu, c'est-à-dire « maître ». Et en disant cette parole, le texte ne le précise pas, mais Marie s'est très certainement jetée aux pieds de Jésus. Des pieds qu'elle a dû saisir, des pieds qu'elle ne veut plus lâcher. C'est la parole suivante qui nous le fait comprendre. Une parole difficile à comprendre, en tout cas dont le sens n'est pas facile à cerner au premier abord. Verset 17, Jésus lui dit, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères, etc. » Cesse de t'accrocher à moi. Personnellement, je pense que cette traduction de la Nouvelle Bible Seconde est bonne. D'autres traductions plus anciennes ont « ne me touche pas ». Le texte en grec permet les deux traductions. « Ne me touche pas » ou « cesse de t'accrocher à moi ». La traduction « ne me touche pas » soulève certaines difficultés importantes, au moins deux. La première, c'est la contradiction que l'on va trouver entre cette interdiction de toucher Jésus et l'invitation que Jésus va faire très rapidement ensuite à Thomas en l'invitant à le toucher. Pourquoi Marie ne pourrait-elle pas toucher Jésus alors que Thomas est invité à le faire? Et puis la deuxième difficulté, c'est le lien avec la suite du verset. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Et avec cette traduction, on a cherché à expliquer pourquoi Jésus ne pouvait pas être touché avant de monter vers le Père. Je vous passe les détails. Beaucoup, 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 beaucoup de choses ont été dites, écrites. À mon sens, peu sont convaincantes. La vraie question, selon moi, qui se pose ici est la suivante. Qu'aurait eu Jésus à craindre? Qu'aurait eu Jésus à craindre d'un contact physique avec Marie, même s'il n'est pas encore monté vers le Père? Et puis, de toute façon, le mal est fait, entre guillemets, puisque Marie l'a déjà touché. Tout ça pour vous dire que cette traduction ne me touche pas, ne me paraît pas la plus heureuse. Cesse de t'accrocher à moi me semble bien plus facile à comprendre. Et la Bible du Semeur dit encore les choses un petit peu différemment, et je trouve que c'est très éclairant. La Bible du Semeur traduit « ne me retiens pas ». Ne me retiens pas. Marie est tellement heureuse d'avoir retrouvé son maître vivant, elle a tellement peur de le perdre à nouveau, elle ne veut plus le laisser partir, elle le retient, elle veut le retenir. Et c'est cette situation, me semble-t-il, que Jésus adresse ici quand il lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, ne me retiens pas ». Et ce que Jésus veut faire comprendre à Marie, c'est que les choses ont changé. Sa relation à lui sera désormais différente de ce qui a pu se passer auparavant. Marie ne doit pas fonder la nouvelle compréhension des choses, fonder sa foi en Jésus ressuscité sur une restauration des liens du passé. Les conditions ont changé et la relation avec le Maître doit maintenant assumer un caractère différent. Et Jésus signifie donc à Marie qu'il y a un avant et un après à la résurrection. Et puis il précise qu'il n'est pas encore monté vers le Père. Littéralement, il n'a pas fini d'achever son ascension vers le Père. Dans le plan de Dieu, dans le plan du salut, le Christ ressuscité ne devait pas rester sur terre. Ça, c'était le temps de l'incarnation jusqu'à la croix. Il doit maintenant retourner vers le Père. Et c'est d'ailleurs à l'avantage des disciples que Jésus retourne, parce que souvenez-vous, ce qu'il leur a promis, c'est quand il serait retourné vers le Père, il leur enverrait le Consolateur qui serait avec eux tous les jours, le Saint-Esprit qu'il leur a promis. Non, Marie ne doit pas retenir Jésus, qui va bientôt retourner auprès de son Père. Marie doit comprendre. Elle doit comprendre que les choses ont changé, que quelque chose de nouveau s'est mis en place avec la résurrection. Et puis Marie doit témoigner. Verset 17, Jésus lui dit, « Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Un témoin, ça témoigne. « Va vers mes frères et dis-leur. » Dis-leur quoi ? Dis-leur que je suis vivant. Dis-leur que je suis ressuscité. Dis-leur que je monte vers le Père, mon Père qui est aussi votre Père, mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Dis-leur que je poursuis mon œuvre. Dis-leur tout ce que j'avais dit que je ferais. Dis-leur, pardon, que tout ce que j'avais dit que je ferais, je vais le faire. Va vers mes frères et dis-leur. Marie est témoin et elle doit témoigner. C'est la mission que le Christ ressuscité lui confie. Va vers mes frères et dis-leur. C'est la mission que le Christ ressuscité va confier à chacun de ses disciples avant de les quitter. Mission qui nous concerne aussi si nous sommes disciples du Christ. Vous connaissez bien ce passage à la fin de l'évangile de Matthieu. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le disciple est celui qui suit un maître. Le disciple de Jésus est celui qui le suit lui. Faire des disciples de Jésus, du Christ ressuscité, commence par dire tout ce que Jésus a accompli pour que la personne à qui je le dis puisse choisir ou pas de se mettre elle aussi à la suite du Christ ressuscité. Si nous sommes disciples, si nous avons cru, alors nous sommes témoins, même si nous ne l'avons pas encore vu. Nous sommes témoins néanmoins de sa résurrection, de son amour, de sa grâce, de tout ce que Dieu a fait dans notre vie et qui n'est possible que parce que Jésus est ressuscité. Que le Seigneur fortifie notre foi, qu'il fortifie notre foi en la résurrection de Jésus, sans laquelle notre foi est vaine. Qu'il renouvelle notre disposition à être ses témoins, à proclamer que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il revient bientôt. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.